Radio Kapi.
Événement historique ce lundi 20 juin 2022 pour la RDC qui reçoit une dent de la part de la Belgique comme reste du corps de Patrice Emery Lumumba, premier premier ministre congolais assassiné depuis 1961. Ceci ouvre une série de grands événements solennels pour honorer ce héros national. Voilà qui ouvre ce journal. Nous dirons également un mot sur le troisième conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est ouvert ce lundi à Nairobi où participe Félix Antoine Tshisekedi. Conclave consacré à la situation sécuritaire à l'est de la RDC et les suites du processus de paix de Nairobi. Comme invité, nous recevons en fin de ce journal un professeur d'université, Guillaume Kongolo Ntsokwa. Il a mené des recherches sur Patrice Emery Lumumba. Il nous donne le sens de cette remise solennelle des restes des corps de Patrice Emery Lumumba. Fidèles auditeurs, merci de choisir Radio Okapi pour votre information. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Au micro pour la présentation de ce journal, Billy Ivan Lutumba. La dépouille de Patrice Emery Lumumba est exposée à l'ambassade de la RDC en Belgique où une veillée mortuaire est organisée. Mais bien avant, la famille Lumumba a été reçue au palais royal belge par le roi Philippe. C'était avant les cérémonies officielles de restitution des restes de Lumumba ce lundi 20 juin. Le condensé de cette journée avec Cynthia Bachizi.
C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cet événement, de pouvoir vous remettre ce qui reste de votre père qui a symbolisé quand même beaucoup de choses pour beaucoup de gens dans le monde. Je vous remercie aussi pour les démarches judiciaires que vous avez entreprises parce que sans ces démarches judiciaires, on n'en serait pas là aujourd'hui.
C'est le procureur général belge qui a, au cours d'une cérémonie intime et privée, remis le coffret contenant la dent de Patrice Emery Lumumba à sa famille. S'en est suivie une autre cérémonie beaucoup plus solennel, ponctué de trois discours. D'abord, celui du Premier ministre belge Alexander De Croo, qui a réitéré les excuses de la Belgique pour la responsabilité morale de son pays dans l'assassinat de Lumumba. Les diplomates et fonctionnaires belges auraient dû percevoir que le transfert de Lumumba au Katanga mettrait en péril sa vie. Quant au Premier ministre congolais, il a surtout invité la population congolaise à s'approprier l'héritage de Lumumba, lui qui était fervent défenseur de l'unité nationale. Enfin, Juliana Lumumba, visiblement très émue, a surtout rappelé qu'il ne faudrait pas résumer Patrice Emery Lumumba aux questions de décolonisation et souveraineté des États africains. Le désintéressement et le patriotisme dans la gestion de la chose publique ont été l'essentiel des valeurs prônées par mon père, a-t-elle souligné.
Comme ainsi dit, la restitution officielle du coffret contenant la dent de Lumumba a été organisée au palais d'Egmont à Bruxelles en présence notamment du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et son homologue belge. À cette occasion, Jean-Michel Samalou Kondé a invité le peuple congolais à porter à bras le corps le combat de Lumumba qui demeure encore de grande actualité aujourd'hui. On l'écoute dans cet extrait choisi par Cynthia Bachizi une fois de plus.
Aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'appeler le peuple congolais, essentiellement sa jeunesse, à porter à bras le corps le combat de Lumumba qui demeure aujourd'hui encore de grande actualité. Combat de protection et de préservation de l'intégrité territoriale. Combat pour ne jamais trahir la République face aux convoitises extérieures. Cette intégrité territoriale à laquelle tient aussi la Belgique et que vous, comme le roi, avez si bien rappelé en ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités. Des enfants ont encore perdu la vie, des écoles sont encore bombardées, des femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale.
Notez que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a également, dans son discours, souligné que Maurice Mpolo et Joseph Okito, également assassinés avec Lumumba, ont été également admis dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand officier. Le troisième conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est s'est ouvert ce lundi à Nairobi au Kenya. Au menu des discussions, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et aussi en général l'évaluation du processus politique de Nairobi depuis le dernier conclave d'avril et la composition de la force militaire régionale. Au Nord Kivu à présent, la situation restait toujours tendue et imprévisible jusqu'ici pour cet après-midi dans le territoire des Rutshuru. Des violents combats qui y ont commencé depuis dimanche soir se sont poursuivis ce lundi matin entre les FRDC et les rebelles du M23 sur plusieurs fronts. Plusieurs sources locales indiquent que c'est la quasi-totalité des groupements Boussanza et Jomba qui se sont maintenant vidés de leur population. Bernard Danyangi.
Un calme précaire est constaté cet après-midi sur différents fronts après des accrochages survenus entre 8h et 9h locales ce lundi dans la zone de Bikenge et Shangi dans le groupement Bweza et dans la zone de Karambi en groupement Boussanza. Les mêmes zones étaient encore le théâtre des affrontements que se produit dimanche soir entre 18h et 20h locales, précisent les sources administratives et celles de la société civile local. À la mi-journée de ce lundi, des tirs étaient encore entendus au niveau de Rougnoni, 18 km sud-est de Djourou-Centre. Ils sont orchestrés par les rebelles et seraient orientés en direction des bases des casquets bleus de Shangi et celles des FARDC à Kakimore, Bikenge et Busumba, entre autres, situés à une dizaine de kilomètres au sud-est de Rutshuru-Centre. Les autorités militaires ne communiquent toujours pas sur ces affrontements. Des sources concordantes dans le territoire de Rutshuru indiquent que la quasi-totalité des groupements Bweza et Jomba sont maintenant vidés de leur population. Les déplacés prennent la direction de l'Ouganda. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Le gouvernement, à travers ses services spécialisés, notamment la police, est sur les traces de tous ceux qui menacent de s'en prendre aux Tutsis. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, hier dimanche. Dès qu'ils seront appréhendés, a-t-il écrit, ils subiront la rigueur de la loi. Avant de souligner, je le cite, « ne faisons pas d'amalgame et préservons la cohésion nationale ». Fin de citation. De ce fait, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo annonce que toutes les dispositions sont prises pour contrer toute initiative allant dans le sens d'une sorte de chasse contre des communautés. Intervenant hier sur la télévision nationale, le ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito a précisé que des Congolais doivent éviter les actes de stigmatisation et des actes qui s'apparentent à une sorte de chasse aux sorciers. On écoute Daniel Asselo Okito dans cet extrait choisi par Élisée Chikota.
Pour éviter ce que l'on a connu à Kalima, au Maniema, où les gens sont tombés sur un citoyen congolais, semble-t-il, à morphologie nilotique. Tout le monde l'a vu. Donc l'image traverse, circule sur les réseaux sociaux. C'est des actes à décourager. Au jour d'aujourd'hui, à Kinshasa, on a encore vu un groupe de jeunes gens circuler sur les artères de Kinshasa pour demander qu'on leur montre là où se trouve qu'ils sont à la recherche des Rwandais. Et là, j'interpelle tous les responsables des services de renseignement, tous les responsables des entités politico-administratives, de tout mettre en œuvre pour mettre la main sur ces inciviques-là. Il n'est pas permis à un citoyen congolais, à un parti politique, de se donner le pouvoir de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Je demande à la police nationale congolaise et même à l'armée, si des actes pareils sont en train de se passer à côté d'un camp militaire, à côté d'un poste de la police, sur toutes les familles de la ville, on arrête ces gens-là et la justice. Je demande à Madame la ministre d'État de la Justice, même si elle n'est pas au pays, de donner des instructions aux magistrats pour que quiconque sera arrêté soit déféré devant les juges à des procédures de flagrance.
Au Maniema, après les incidents survenus le week-end dernier à Kalima où un bouvier a été lynché par la population, la situation est redevenue calme ce lundi 20 juin dans la commune rurale de Kalima. Réuni en conseil de sécurité le dimanche après son meeting, le gouverneur intérimaire a décrété ce même dimanche 19 juin une période de couvre-feu à partir de 20h jusqu'à 5h du matin dans cette cité minière. Condamnant ainsi ce qui s'est passé, Afani Idrissa Mangala demande à la population d'éviter de se rendre justice. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Ceux qui mènent la guerre sont bien identifiés, ce sont des militaires, ce ne sont pas des bouviers. S'il y a infiltration dans le groupe des bouviers, la population ne doit pas se rendre justice. La justice populaire n'est pas autorisée par la Constitution de la République démocratique du Congo. Si une fois vous suspectez une personne, venez signaler l'autorité compétente pour s'en occuper. Pas à la population de se rendre justice. Cette justice rendue par la population, c'est une manipulation politique qui essaye de contourner l'affaire et l'amener à un autre champ. La situation est maîtrisée, même s'il y a des postes de résistance. Nous demandons à la population de rester à la maison à partir de 20h jusqu'à 5h du matin. Toute personne qu'on trouvera en circulation pendant les heures du couvre-feu, on va l'arrêter parce que nous ne pouvons pas laisser l'État se détériorer de cette manière-là.
Parlons aussi de cet autre appel au calme. La chef de la MONUSCO effectue une visite de travail à Kalemie dans le Tanganyika où elle est arrivée ce lundi. précédé par le leadership de la mission onusienne, Bintou Keïta va procéder au cours de son séjour à la fermeture de la représentation de la MONUSCO au Tanganyika. Par ailleurs, dans un communiqué, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC exprime sa profonde inquiétude quant à la recrudescence des messages de haine et l'incitation à l'hostilité dans le pays. Bintou Keïta appelle les citoyens congolais, quelles que soient leurs origines, à se réunir autour de leur armée, leurs autorités et leurs alliés. Elle invite les autorités à initier des poursuites contre tous ceux qui incitent à la haine, à la violence et à l'hostilité. Le port des uniformes qui s'apparentent à ceux de la police ou de l'armée est strictement interdit dans le Haut-Katanga. Cette mesure est du commissaire provincial de la police qui relaie la décision de la haute hiérarchie du pays à en croire le porte-parole de la PNC dans le Haut-Katanga, le major Charles Esperanto Bin Luamba. Ce dernier l'a fait savoir dans un communiqué de presse rendu public ce week-end. On écoute major Charles Esperanto Bin Luamba dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
Les commissaires provinciaux ad intérim de la police nationale congolaise du Haut-Katanga portent à la connaissance du public et particulièrement 1. Aux membres des partis politiques qu'il leur est strictement interdit d'arborer les tenues ou tout autre indice qui risque de semer la confusion avec celle de la police nationale congolaise ou des forces armées de la République démocratique du Congo. 2. Aux agents des sociétés privées de gardiennage de s'abstenir de porter des tenues noires, tenues bleues, tenues vertes ou tout autre uniforme susceptible de faire penser à la police nationale congolaise ou aux forces armées de la République démocratique du Congo. Enfin, le commissaire provincial ad intérim de la police nationale congolaise du Haut-Katanga souligne avec force que quiconque ne se conformera pas aux mesures si haut évoquées se verra appliquer la loi dans toute sa rigueur.
Actualité sous le plan humanitaire, plus de 72 000 réfugiés composés essentiellement des Sud-Soudanais et des Centrafricains sont installés dans 4 sites et dans des familles d'accueil dans les provinces de l'Ituri et du Haut-Touélé. Selon le chef du bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR, son agence exécute plusieurs programmes dans le cadre de l'autonomisation et des réinsertions des réfugiés. Denis Houlet l'a dit ce lundi à Bounia à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés. Cependant, ces défis restent énormes pour la prise en charge de ces réfugiés et le rapatriement volontaire de certains parmi eux à cause de la persistance de l'insécurité dans leur pays d'origine. Denis Houlet est au micro d'Ezekiel Mouzali.
Nous avons à peu près 72 000 réfugiés, à majorité sud-soudanais, qui sont gérés par le bureau du ACR basé à Arou, qui comprend aussi bien des réfugiés qui sont installés dans le territoire de Faradje, dans la province du Haut-Touélé. En termes d'état des lieux, il faut dire que la situation des réfugiés continue de s'améliorer avec l'interaction et l'appui de tous les partenaires. Le message que je lance est un message de paix à l'endroit aussi bien des réfugiés, mais aussi des personnes déplacées que nous avons ici. C'est la situation sécuritaire qui les a fait partir de chez eux. Journée des réfugiés parce que c'est des gens qui ont fui la guerre. Aussi bien les réfugiés que les déplacés, c'est des personnes qui ont fui la guerre. Au niveau de la province de l'Ituri, le ACR a mis en place des programmes d'insertion, mais aussi des programmes d'autonomisation, parce que le ACR travaille actuellement sur les questions des solutions. Donc sur les programmes d'autonomisation, l'idée c'est de rendre les réfugiés autonomes, de sorte à ce que, en plus de l'assistance alimentaire, ils puissent subvenir à leurs besoins.
Actualité internationale.
Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, un organisme officiel au Maroc, a appelé les autorités russes à garantir un procès équitable en appel à un jeune Marocain condamné à mort par les séparatistes pro-russes pour avoir combattu avec l'armée ukrainienne. Brahim Sadoun, 21 ans, a été condamné à mort le 9 juin en compagnie des deux Britanniques par la Cour suprême de la République populaire de Donetsk, région séparatiste pro-russe, pour avoir participé au combat comme mercenaire. La présidente du CNDH, Amina Bouayache, a contacté le Haut Commissariat pour les droits de l'homme en Russie afin qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour assurer à Brahim Sadoun un procès équitable lors de son jugement en appel, a ainsi déclaré à l'AFP une source de l'organisme marocain. Le chef de la junte au pouvoir en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a imposé un délai de 14 jours pour la création de la co-entreprise chargée de l'exploitation d'un immense gisement de fer, a ainsi annoncé la télévision publique guinéenne RTG.
Un accord tripartite a été signé il y a 3 mois pour une durée de 35 ans entre l'État guinéen, l'anglo-australien Rio Tinto Simfer et Wining Consortium Simandou en vue de l'exploitation du site de Simandou au sud-est, un des plus vastes gisements de fer au monde.
L'invité.
Parlons de la remise des reliques de Patrice Emery Lumumba à sa famille. Radio Okapi a approché l'historien et professeur Guillaume Kongolo Nsokwe de l'université de Lubumbashi qui a mené plusieurs recherches sur le héros national. Professeur Guillaume Kongolo Nsokwe s'entretient avec Jean Gandou comme invité de ce soir.
Bonjour professeur Kongolo.
Bonjour monsieur Jean Gandou.
La Belgique remet enfin les reliques du tout premier premier ministre Patrice Emery Lumumba à la RDC. Que peut-on entendre par relique?
Une relique, c'est ce qui reste du corps d'un humain. Ce terme est emprunté de la religion, en ce qui concerne les reliques de saints, ou encore de l'archéologie, lorsque les archéologues déterrent le corps d'une personne qui a été enterrée il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, on parle des reliques. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de ce qui reste du corps du premier premier ministre Lumumba.
Est-ce la fin d'un feuilleton qui aura duré plusieurs décennies?
Ce n'est pas la fin du feuilleton, ceci pour 3 raisons. Primo, un procès est en cours en Belgique des enfants Lumumba contre les complices belges de cet assassinat, qui sont encore en vie. Secondo, la commission d'enquête belge ayant conclu à la responsabilité morale seulement de la Belgique, elle a laissé un goût du non-achevé d'un dossier non clos. Tertio, il n'est pas exclu que des chercheurs, soit belges, soit congolais, puissent reprendre le dossier et cherchent à prouver la responsabilité politique de la Belgique.
Une question de curiosité. Et pourquoi remettre seulement une dent et où seraient les autres parties du corps de Patrice Emery Lumumba?
Pourquoi seulement la dent comme relique de Lumumba? C'est parce que le commissaire de police, Gérard Sout, son jeune frère et les 4 soldats congolais qui les accompagnaient avaient reçu l'ordre d'une élimination définitive de Lumumba, d'Impolo et de Okito. Cela signifiait qu'il fallait les faire disparaître leur corps, de manière qu'il n'y ait jamais de cercueil ni de tombe pour avoir peur que les lieux où on les enterre, où on enterre surtout Lumumba, ne puissent devenir un lieu de pèlerinage. Alors, pour cette disparition définitive, il a fallu qu'ils aillent avec de l'acide sulfurique sur la route de Mwadingusha et là, ils vont dépiécer les 3 leaders congolais exécutés et ils vont prendre les parties de leur corps pour les asperger d'acide sulfurique pour les faire disparaître. Et les os qui étaient restés, ils vont les jeter, les éparpiller. Et pourquoi la dent? Gérard Sout lui-même explique qu'il se disait que plusieurs personnes pourront se vanter d'avoir tué Lumumba. Alors pour garder la preuve, il a gardé les 2 dents de manière à pouvoir opposer à quiconque se dirait d'avoir tué Lumumba que moi j'ai la preuve, c'est moi qui l'ai tué, voici ses dents. Et c'est dans cet esprit qu'il avait gardé 2 dents. Les autres parties du corps de Lumumba avaient été dissous dans l'acide sulfurique. Quelques os qui étaient restés, Gérard Sout lui-même les rapporte qu'il les avait jetés l'un après l'autre en brousse de manière à ce qu'on puisse pas les retrouver.
Et puis qu'est-ce qui prouve que la dent remise à la RDC est réellement celle de Patrice Emery Lumumba?
Nul ne met en doute le fait que M. Gérald Sout, le commissaire des polices belges, est celui qui a été chargé de pouvoir faire disparaître le corps de Lumumba et qu'il a exécuté cette tâche. Toutes les preuves existent. D'ailleurs, lui-même, il a rapporté dans un roman déjà en 1978. Et lorsque, en 2000, il déclare lui-même et montre qu'il détient 2 dents de l'ancien premier ministre Lumumba, et personne ne pouvait le mettre en doute. Et il meurt en 2000. Et 16 ans après, sa fille déclare qu'elle détient encore une de ses dents de Lumumba et quand le parquet investit sa maison, il découvre effectivement la dent.
Enfin, professeur Kongolo, plusieurs décennies après la mort de Patrice Emery Lumumba, quelles sont les péripéties qui expliquent l'histoire de la dent de Lumumba jusqu'à ce qu'elle soit remise en ce jour à la RDC?
En effet, en 2000, Gérard Sout fait la ronde de chaînes de radio-télévision et dans les émissions, il affirme qu'il a arraché les dents de Patrice Emery Lumumba. Et dans une de ses émissions, intitulée « Une mort des types coloniales », après qu'il ait avoué avoir arraché les dents de Patrice Emery Lumumba, les journalistes lui font observer que c'est un crime. Et lui-même rappelle que oui, le sociologue Lido de DeWitt lui avait déjà fait remarquer cela. Et que d'ailleurs, depuis, il dort très mal, ou il a difficile à dormir. Cela signifie que Gérard Sout prend peur et il va déclarer que non, j'ai pris un bateau, je suis allé dans la mer du Nord, je suis allé jeter les 2 dents. Et Gérard Sout va décéder en 2000. Et en 2011, la famille Lumumba revendique ou réclame qu'on puisse lui restituer les 2 dents ou ce qui reste comme dépouille de leur papa. Et en 2016, la fille du commissaire Gérard Sout va dans une émission ou dans un journal ou magazine Humo, il va affirmer qu'il détenait encore une des dents de Patrice Emery Lumumba. Et c'est sur quoi le parquet va investir sa maison et pouvoir perquisitionner et il va saisir la dent. Et il faudra attendre, je crois, le 10 septembre 2020 pour que le parquet décide enfin de la restitution de la relique ou de la dent à la famille de Lumumba. Voilà un peu l'histoire de cette dent. Et finalement, le gouvernement congolais va se décider de pouvoir prendre en charge le retour de cette relique ou de cette dépouille du premier ministre Lumumba dans sa terre natale en République démocratique du Congo. Et nous en sommes là. Et c'est cette semaine que cette relique va regagner le Congo. Voilà pour ce qui est des péripéties de cette dent du premier ministre Lumumba.
Professeur Kongolo, merci.
Ça en est ainsi fini avec cette édition de Journal sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, nous vous disons sincèrement merci d'avoir été des nôtres.